Bonjour, bienvenue dans notre 34e émission dans notre musée imaginaire. Et aujourd'hui, nous allons repartir en Italie, en particulier à Rome, à Venise, à Vicence. Alors, le maniérisme dans l'architecture, c'est la licence. La licence, c'est-à-dire on se libère par rapport à la règle fixée durant la Renaissance. Le maniérisme a été haïssable au XVIIIe et XIXe siècle, justement, parce qu'on s'était éloigné de la règle. La règle, en 1420, c'est Brunelleschi et Donatello qui auscultent l'architecture antique. Le rythme, la répartition uniforme des éléments, avec les travées horizontales, verticales, comme au Colisée, et puis les différents ordres, colonnes et entablements, les trois ordres grecs d'architecture selon Vitruve, qui était au 1er siècle après Jésus-Christ l'architecture d'Auguste, et deux ordres romains, toscans et composites, à savoir un mélange ionique et corinthien. Les architectes maniéristes vont partir de ces règles et s'en écarter. C'est un nouvel idéal de beauté. Et on va découvrir les premières prémices du maniérisme dans le traitement des murs. Exemple à Florence, pour la façade du palais Strozzi, début 1489, au niveau du mur, les artistes vont jouer avec le rythme et la lumière grâce au bossage. Qu'est-ce que le bossage? Ce sont des pierres en saillie et nous allons y revenir. Autre exemple, le palais Médicis, commencé en 1444 par Michel Lozzo, architecture maniériste par des caractéristiques de la Renaissance et va accentuer ce traitement. Passage donc dans un nouvel traitement de l'architecture avec un bossage rustique, à savoir arrondi avec des pierres piquetées qui permet d'accentuer le côté vieilli et bossage en pointe de diamant, petite pyramide, dont nous voyons une richesse ornementale, recherche de trompe-l'œil, recherche aussi de dynamisme avec alternance au niveau du fronton, de fronton semi-circulaire et triangulaire. Alors, le premier grand architecte, c'est Bramante, 1444-1514, qui meurt à Rome. C'est le maître de l'architecture de la Renaissance, de la Haute Renaissance, un homme du Nord. Formation de peintre, attiré par la géométrie, il travaille pour le duc de Milan et il va beaucoup rencontrer Léonard de Vinci. Il est appelé à Rome par Jules II et d'abord il y a un petit monument sur le tombeau de Saint-Pierre à Rome, le lieu de martyr de Saint-Pierre appelé le Tempietto à Rome. Bramante choisit le classicisme romain d'origine grecque conjugué aux acquis de la Renaissance, donc un modèle du centre du plan centré, surmonté d'une coupole, et à l'extérieur, 16 colonnes, 16 parce que, selon Vitruve, c'est le nombre parfait. À l'intérieur, un plan circulaire, sur l'autel, la statue de Saint-Pierre. Très riche sol en marbre polychrome, le modèle, il le trouve dans le modèle romain et grec, comme le Tholos à Delphes. La coupole, c'est une antiquité revisitée. Il va utiliser les ordres d'architecture avec, au niveau de l'entablement, l'entablement, c'est ce qui est entre le fronton et les colonnes. Dans l'entablement, nous avons ce qu'on appelle les triglyphes et les métopes. Les métopes avec imagerie chrétienne, christianisation des éléments antiques avec le soubassement, la colonne, l'entablement et le fronton. La métope, c'est un panneau quadrangulaire intercalé entre deux triglyphe dans la frise dorique. Je vous conseille d'aller sur vos tablettes pour le regarder. Le triglyphe est constitué de trois jambages séparés par des canaux creux. Et Jules II lui confie donc des travaux beaucoup plus importants, à savoir la basilique Saint-Pierre. On va raser l'ancienne basilique, on en garde une petite partie, et c'est un plan centré avec une croix grecque. Travaux, mais Bramante, hélas, décède rapidement. Autre œuvre de Bramante, l'escalier Bramante au Vatican, la cour de la Pigna au Vatican, cour du Belvidère au Vatican toujours, et puis surtout quelque chose de magnifique, le cloître de l'église Sainte-Marie de la Paix, construction 1500-1504. Et nous allons revenir à Michel-Ange. Jusqu'en 1520, Michel-Ange n'est pas l'architecte entre guillemets, car Bramante et Raphaël dominent. Et puis, en nouvelle architecture va apparaître avec Michel-Ange en 1520, on va casser les codes. On regarde vers l'Antiquité, mais on joue avec d'autres codes, effet de surprise dans la singularité. Exemple, des fenêtres intérieures, mais aveugles, occultées. On va briser les frontons. Le fronton devient triangulaire, interrompu. Et puis surtout, un élément caractéristique du maniérisme, la niche vide qui anime le mur. Il n'y a pas de sculpture dans la niche. Pilastres fuselés, les colonnes sont encastrées dans le mur. Alors une œuvre aussi intéressante de Michel-Ange, c'est la porte Pia, P-I-A, dernière grand chef-d'œuvre à Rome à la demande du pape Pie IV. Et à partir aussi de 1524, il va construire un élément remarquable, la bibliothèque laurentienne, située dans l'ancien monastère San Lorenzo à Florence, demandée par le pape Clément VII. C'est un espace restreint de l'escalier qui est remarquable, avec une caractéristique, les marches arrondies. Des colonnes de décor s'enrôlent de support dans le mur, éléments ornementaux dont des colonnes, des niches vides et des fenêtres aveugles. Alors, un autre architecte très important, c'est Giulio Romano, Jules Romain, peintre, architecte décorateur, 1499-1546. C'est le meilleur élève de Raphaël. Il est né à Rome, il meurt à Mantoue. À la mort de Raphaël, il prend la suite du maître, mais il a quelques faux pas qui l'éloignent du pape, un petit différend avec le pape. Son œuvre la plus célèbre, c'est le palais du T.E. à Mantoue. C'est une villa-palais commandée par le duc de Mantoue, Francesco II de Gonzaga. C'est la villa des délices, un palais suburbain sur le thème de la villa romaine, architecture à l'antique, avec des reprises d'éléments antiques, mais aussi les fameux détournements, on va vers le maniérisme, il joue avec la surface des murs, à savoir des bossages plus des éléments antiques, bossages plus ou moins marqués que d'autres. Traitement, il va traiter la façade en bossage, ce qui va permettre d'apporter des jeux d'ombre et de lumière, recherche de rythme et d'animation. Et puis, on va retrouver les niches vides qui sont un grand motif du maniérisme, des niches sans sculpture. L'entablement dont entre le fronton et la colonne, entablement avec des désordres, des déséquilibres voulus, éléments anthropomorphiques. Et puis, les fameuses colonnes torses, ou appelées colonnes salomoniques. Pourquoi ? Parce qu'on pensait que le temple de Salomon avait des colonnes torses. Il va jouer aussi avec la polychromie, naturelle ou transformée. Et à l'intérieur, Jules Romain a réalisé l'architecture décorative, des décors peints. Il fait toutes les peintures du palais de Thé, avec exemple le salon de Psyché, avec des peintures à thématique érotique, et la salle des géants, avec beaucoup de trompe-l'œil. Et enfin, on va arriver à Vignoles. Vignoles, c'est 1507-1573, Jacopo Bazzoni da Vignola. Il construit quelques palais, mais aussi connu pour son architecture religieuse. Il répond aux changements imposés par la contre-réforme et par le concile de Trente. Le plan en croix grecque est abandonné. Pourquoi ? Parce qu'il ne rend pas l'église fonctionnelle. Le maître-autel doit être visible par tous les fidèles. Un exemple, l'église de Jésus. Jésus, en 1568-1584, c'est un plan classique, longitudinal, en croix latine. C'est l'église mère des jésuites de Rome. Enfin, une villa magnifique à voir à Rome à tout prix. Il y a très peu de touristes, la Villa Giulia. La Villa Giulia, c'est une villa pour le pape Jules III. Actuellement, c'est un musée, le musée de la civilisation étrusque, c'est magnifique, lieu de splendeur absolue, jeu de plein et de vide, la peinture accompagne l'architecture. Et puis la Villa Farnèse, et non pas le palais Farnèse, la Villa Farnèse de Caprarola. Caprarola est située à 50 km de Rome, projet à l'origine une forteresse, puisqu'il sera transformé. Enfin, dernier architecte, Andrea Palladio, 1508-1580, décédé à Vicence. Andrea di Pietro della Gondola. C'est un architecte talentueux, un humaniste, un art très pensé, intellectualisé. Les lecteurs de Vitruve, d'Alberti, aspect maniérisme avec référence à l'Antiquité puissante, mais invention débridée. C'est l'architecte par excellence de la République de Venise. Il va inventer des palais, des villas, un classicisme sourcilier, mais aussi liberté totale. Il prend la suite de Jules Romain. Il va être un penseur de l'architecture. Il pense les distributions intérieures, l'ordonnance, disposition agréable des lieux. Il relève les trois points de Vitruve, à savoir solidité, beauté, commodité. On réinvente donc une antiquité qui n'a pas existé. L'ordre dorique est privilégié parce que synonyme d'ordre fort, et avec Palacio, c'est un nouveau type de résidence qui va se développer dans toute l'Italie, mais aussi en France, la villa palladienne. Villa écartée de la ville à la campagne. Nous en avons déjà évoqué quand nous parlions de Véronèse. Alors j'en cite quelques-unes, la Villa Capra ou la Villa Rotonda, 1567-1571, villa de campagne, avec une façade de temple, plus des éléments antiques. Et c'est plus antique que l'Antiquité. Nous avons la Villa Barbaro ou Villa Mazère, 1560, à Mazère, mariage de la peinture et de l'architecture, c'est extraordinaire comme lieu, façade à arcades très régulières et rythmées, au centre quatre colonnes colossales d'ordre ionique avec un grand fronton triangulaire. Et à l'intérieur, nous l'avions déjà évoqué dans la peinture maniériste à Venise, des fresques somptueuses de Véronèse, à l'intérieur beaucoup de trompe-l'œil, beaucoup d'art, c'est l'art de l'illusion. Donc c'est l'auteur de grands édifices aussi religieux, des plus belles églises de Venise, et en particulier l'église de du Rédempteur à Venise, 1576-1588, et surtout à Vicence, qui est à 67 km de Rome. C'est une ville extraordinaire à visiter, et là on va trouver le chef-d'œuvre, le Teatro Olimpico, 1580-1585. Regardez-le, c'est magnifique, célébration absolue à l'Antiquité, mais c'est très théâtralisé. Front de scène, gradin, intellectualisation de l'art. Donc, on va conclure avec sur Palladio. On va dire que c'est un artiste qui symbolise cette architecture du XVIe siècle et devient le fondement d'une architecture qui servira de modèle dans les années à venir. Voilà, allez sur vos tablettes, sur vos ordinateurs, refaites ce voyage, nous en reparlerons. Et puis, voilà, c'est des endroits absolument somptueux à voir. Bonne journée, à très bientôt.